dans le livre de Néhémie que se trouve notre pain quotidien pour aujourd'hui. Le pain de ce jour, il est dans le livre de Néhémie. On est nourri par la parole de Dieu, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Comment vous allez ce matin? Ça va? Vous êtes heureux? Il y a beaucoup d'asthmatiques ce matin quand même. Hein. Vous êtes heureux? Alors les amen, des fois je me demande si c'est pas pour tricher ça. On dit amen, c'est pour être spirituel, mais qu'il en soit ainsi. Vous êtes heureux qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que je me mouille pas trop, quoi. J'ai un problème avec cette phrase. Parce que j'ai appris et j'ai lu dans le livre qui s'appelle la Bible et qui est vraiment inspiré de Dieu. Dans le livre de l'évangile de Luc au chapitre 2 au verset 10, il est dit « Un ange est venu vers Marie et Joseph et leur a dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est le Messie, le Seigneur. » Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'un chrétien, il a une bonne nouvelle. Il y a une grande joie qui est dans son cœur, c'est qu'il a un sauveur. Pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, c'est pour ça que je disais qu'ils sont convertis, qu'ils se sont mouillés pour Dieu, qui choisissent de suivre Jésus, vous avez entendu de cette bonne nouvelle, non? Vous rappelez le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur? Vous rappelez l'année où vous êtes rapproché de Dieu? Vous rappelez votre enthousiasme du début? La joie que vous aviez et que tout le monde vous disait mais qu'est-ce qui se passe et tout? T'es rayonnant. Parce que vous aviez fait une rencontre et vous avez dit, j'ai une grande joie dans mon cœur. Alors comment ça se fait qu'après des années, tu fais la tête que tu fais ce matin? C'est vrai, on le fait. Et la vérité, c'est qu'on a une gêne vis-à-vis de ça. On perd notre joie. Et du coup, quand un pasteur a l'impolitesse de nous demander « Vous êtes heureux ?», on est partagé entre deux réponses. On est partagé en fait dans la réponse de faire une réponse très spirituelle, un peu méthode Coué. On dit « Oui frère, je suis dans la joie par la grâce !» Oui, je suis dans la joie, oui, amen, amen. C'est un peu un langage codé, c'est une méthode que l'on répète comme si en disant qu'on est dans la joie, on va l'être, mais on n'est pas forcément. Mais parce qu'on a honte de dire qu'on n'est pas dans la joie, on va s'efforcer de dire qu'on est dans la joie alors qu'on ne l'est pas. Ok, mais il y a un autre extrême. Ce que j'appelle l'école des dépressifs anti-hypocrisie. Eux, vous allez les voir, un peu dépressif, anti-hypocrisie. Ma sœur, comment tu vas? Ça va pas! D'ailleurs, un chrétien a le droit de dire que ça va pas! Et il y en a marre des hypocrites qui mettent des masques alors que ça va pas! Et vous voyez, dans les deux cas, on a un problème avec le mot joie. Parce que si on l'a pas dans notre cœur, on se dit, est-ce qu'il faut que je me persuade et que je dise que je l'ai alors que je l'ai pas? Ou bien est-ce que je dois jouer la transparence et casser le moral de tout le monde? En disant ça va pas. Et les pasteurs, ils font pareil. Parce que vous allez entendre des pasteurs, un télévangéliste qui va venir et qui va dire voilà, si tu as Jésus dans ton cœur, tous tes problèmes s'enfuient, t'es dans la joie. Tu dis c'est pas vrai. Et puis vous allez avoir des pasteurs qui vont faire des cures de psychothérapie dans la prédication à la fin. Vous dites c'est vrai. Moi, j'ai eu un pasteur, il prêchait sur la dépression tous les dimanches pendant 2 ans. Pour ceux qui vont bien, au bout d'un moment, on se dit mais c'est pas possible. Des fois, il y a des jours de joie quand même. Alors dans Néhémie, il nous donne un secret qui est extraordinaire. On va lire ensemble de Néhémie. C'est court ce matin, mais je voudrais que ça vous percute. Néhémie, chapitre 8, verset 1er. Néhémie 8, verset 1er. Alors je vais le lire dans la version second 21 ce matin. Ça va s'afficher sur vos écrans. Un grand merci à toutes les personnes qui travaillent derrière pour la vidéo et le son. Texte du jour, Néhémie 8, verset 1er. Alors le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. C'est quoi la loi? C'est qu'ils ont amené la Torah. Ils ont amené les rouleaux qu'ils avaient écrits sur des papyrus, sur des peaux de bêtes. Et ils ont commencé à lire la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée. C'est un culte à l'africaine. Ceux qui rigolent, c'est ceux qui ont déjà vécu ces cultes qui commencent et qui ne finissent jamais. Nous, les Européens, au bout d'une heure et demie, on en a marre. On est beaucoup moins patients. Mais on a beaucoup moins faim de Dieu aussi, ça c'est dommage. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui est face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Et le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture du livre de la loi. Alors je vous pose cette question. Ok, ils ont passé toute la matinée, on va dire 8h midi, 4h à lire et à entendre, à expliquer la loi, la parole de Dieu. Dans quel état ils sont à la fin de la réunion ? Content. Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est pas vrai. Ben non. Ben non. Au bout de 4 heures de réunion, verset 9. Tout le monde lit le verset 9. Au bout de 4 heures de réunion, le gouverneur Néhémie, le prêtre et le scribe Esdras et les Lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu. Ne prenez pas le deuil et ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Oh. On ne peut même pas dire que c'est la faute du prédicateur parce que c'était juste la loi qu'il lisait. Alors je vais voir et je voudrais que vous soyez attentifs dans les quelques minutes que j'ai pour aller le plus profondément possible et au-delà des clichés sur la loi, sur la joie où il faut être joyeux et tout ça, je voudrais qu'il y ait une vérité et qu'on comprenne ce que le texte nous dit. Pourquoi ils sont en train de pleurer alors qu'ils ont lu la loi de Dieu ? Pourquoi alors que tu vas à l'église et dans certaines églises évangéliques où tu viens, tu t'assois sur ta chaise, tu commences la prédication, il y a plein d'exhortations qui sont dites et à la fin, tu rentres chez toi et tu es dans un état plus déprimé qu'avant la réunion. Et ça vous est arrivé, ne me dites pas que ce n'est pas le cas. Ça vous est arrivé de vivre des réunions où vous avez pleuré et à la fin, ça vous a posé plus de problèmes et de tristesse dans votre cœur. Vous redémarrez votre semaine, vous êtes à vide. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, c'est normal, si jamais c'est le jour où on se convertit. Même pas. Parce que le jour où vous vous donnez au Seigneur, vous arrivez sale comme vous êtes. Mais quand vous êtes purifié à la fin de la réunion, vous êtes très heureux. Même si vous avez pleuré pendant la réunion, quand vous vous donnez au Seigneur, après, à la fin de la réunion, vous avez une joie dans votre cœur parce que la paix de Dieu vient en vous. Et il est dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc quand on est vraiment... C'est pour ça que les jeunes convertis sont plus heureux que vous qui avez 10 ans de conversion. Alors, il y a un problème. Donc, comment ça se fait que des chrétiens, parce que c'est le cas, Néhémie, je vous donne un peu le contexte, ça fait des jours, pardon, des semaines, pardon, des mois, pardon, des années que tous les gens qui sont là dans la salle sont en train de rebâtir la muraille de Dieu à Jérusalem. Néhémie, c'est quelqu'un qui était déprimé lorsqu'il était à la cour du roi de Babylone. Il faisait la tête et un jour, le roi lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, Néhémie ? Pourquoi tu as le visage si triste ?» Il dit « Je pleure parce que je vois ma ville, celle d'où je viens, avant d'être déporté, ma ville, elle est en cendres. Il n'y a plus les murailles qui protégeaient la ville et j'ai à cœur d'aller les reconstruire. » Et le roi de Babylone lui a dit « Vas-y, repars, va redémarrer. » Et vous voyez, c'est des années après. Et ils ont fait le travail. Ils ont été fidèles à Dieu. Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont levés. Vous croyez que c'était un maçon à la base ? Non, c'était un grand échanson, c'était un goûteur, Néhémie. Mais il a changé de travail pour Dieu. Il est devenu maçon, il a fait le travail. Ils ont reconstruit les murailles. C'est un jour de fête. Les murailles sont finies. C'est la fête. On lit la parole de Dieu et ils dépriment tous. Alors, je vais vous dire pourquoi ils ont perdu leur joie. Parce que quand tu lis la loi... tu pleures. Écoute bien, enfant de Dieu. Quand tu lis la loi, c'est-à-dire quand tu lis Dieu sous forme de liste de commandements, tu pleures. Vous avez déjà joué aux fléchettes quand vous étiez petit ? Vous avez vu ce que c'est qu'une cible ? Vous avez, si vous tirez à côté, vous avez 0 point. Après, vous avez 1 point, 2 points. Et plus vous êtes dans le centre de la cible, plus vous marquez des points. Vous êtes d'accord ? Ça vous est déjà arrivé de rater une fléchette ? Mais je veux dire, une fléchette qui part complètement à côté et tout le monde qui rigole autour et vous reprenez une deuxième fléchette et vous la mettez dans le 1 point alors qu'il y a quelqu'un qui est à côté plac, le 10. La Torah, en hébreu, le mot exact en hébreu, Torah, veut dire la cible. Alors pourquoi lorsque vous lisez la Torah, lorsque vous lisez les commandements de Dieu, pourquoi vous pleurez ? Ben, je vais vous dire, c'est tout simple. Parce que si vous comprenez Dieu comme une liste de commandements et Dieu dit tu n'auras aucune idole. Tu te dis, mince, avec le temps que je passe pour nettoyer ma voiture, ma belle voiture, ma jolie voiture. Quand Dieu dit, tu n'auras aucun autre Dieu que toi, et qu'en fait tu passes très peu de temps avec Dieu et beaucoup de temps ailleurs, quand tu vois dans la Bible qu'il est marqué « tu ne commettras pas d'adultère » et que tu regardes ton premier mariage qui a complètement échoué et que tu dis déjà là « c'est foutu ». Quand tu lis la Bible et que tu vois « tu respecteras tes parents » et que tu vois les conflits que tu as eus avec tes parents, tu dis « pas bon ». Vous savez ce que ça provoque de lire la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu ? C'est que comme les commandements, ce sont des actions à réaliser, et que vous voyez d'un côté les actions que Dieu attend de vous, et d'un autre côté, par rapport à cette loi, ce que vous faites vraiment, vous dites « mais c'est pas possible, je suis complètement un raté, moi ». Parce que la cible, le 10 sur 10, quand vous regardez votre vie, honnêtement, avec objectivité, vous n'êtes pas à la hauteur. Dans vos actions, vous n'êtes pas à la hauteur. La façon dont vous parlez à votre conjoint, c'est pas à la hauteur. La façon dont vous parlez à vos enfants, c'est pas sérieux des fois. La façon dont vous les élevez, votre faiblesse, la façon dont vous parlez à votre chef, les critiques, les médisances que vous donnez. Moi, si je suis un prédicateur et je prêche que ça, à la fin, vous allez tous pleurer. Si je commence à donner toutes les lois et tous les commandements que vous respectez pas, vous allez dire, mais je suis nul, pasteur. Parce que ce que je fais ne correspond pas à la loi, à la Torah, à la cible. Je suis à côté de la cible. Et c'est pour ça qu'au bout de 4 heures de lecture, il y a un peuple qui, au lieu de se réjouir, est en train de pleurer en se disant « on est nul !» En effet, le peuple pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Quand vous êtes dans la Torah, vous savez ce que vous faites ? Vous regardez en vous-même. Voilà pourquoi vous êtes triste. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites, c'est que vous regardez à vous-même, vous regardez votre façon de vivre et vous dites « ma vie, elle est nulle. Je suis marié à un homme qui ne m'aime plus. Mes enfants sont en train de prendre un mauvais chemin. » Vous regardez votre travail et vous dites « mais à quoi je me lève le matin pour gagner un salaire de misère pour une entreprise qui, franchement, elle n'est même pas bien. » Et du coup, vous dites « mais par rapport aux autres, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit... » il y a quelques semaines de cela, « pasteur, j'aimerais être comme vous spirituellement. » Oui, mais qu'est-ce qu'elle sait de moi spirituellement ? Ce que je dis le dimanche matin ? Non ? Elle ne sait rien de moi. Et quand on se compare, on essaie de trouver quelqu'un qui est meilleur que nous spirituellement. Vous voyez, dans cette notion de Torah, dans cette notion de loi, si vous avez une vision légaliste de Dieu, vous essayez de vous comparer à quelqu'un et vous dites « je suis nul, par rapport à la Torah, je suis nul ». C'est pour ça que des fois, il y a des pasteurs qui se présentent comme des apôtres internationaux de Jésus-Christ, de la puissance éternelle révélée dans la grâce, je ne sais pas quoi, parce qu'ils disent « waouh, s'il a tous ces titres-là, lui, ça doit être un bon ». La loi entraîne les pleurs. Si vous avez une vision de Dieu comme un père fouettard qui est en train de se dire « numéro 14 du commandement tiré B, pas respecté, bing !»« T'as fumé, bing !»« T'as regardé quelque chose pas bien à la télé, bing !»« Je te parle plus !»« Allez, 3 jours tu lis ta Bible, je te communique plus rien !» Et puis t'es un hypocrite quand tu vas à l'église. Si vous avez une vision de Dieu comme ça, vous êtes en grand danger, mes amis, parce que vous n'avez plus votre joie. Quelqu'un vous a volé votre joie. Vous ne serez plus jamais heureuse. Si tu attends d'être missionnaire en Inde pour être heureuse, ma sœur, eh ben, tu n'as pas fini de pleurer. Si tu attends d'être cette mère Teresa qui prend soin de déchiffonner des enfants de la rue et qui donne sa vie, tu dis « mais moi, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Ma vie est nulle, elle n'a pas de sens. » Tu vas te comparer aux autres. Tu vas trouver les autres formidables et toi, pas terrible. La médiocrité de votre vie est mise en évidence quand vous lisez la loi. Et c'est pour ça que certaines prédications ne me font pas du bien, parce que si le seul objectif c'est de me rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, eh ben ça va me faire pleurer. Alors je voudrais aller profondément, et c'est le dernier point, et le deuxième et le dernier point que je vois, comment retrouver votre joie ? Comment retrouver votre joie ? Je suis content que ça soit Néhémie qui ait dit ça, parce que si c'était moi qui le disais, vous diriez le pasteur Yvan, il est complètement à côté de la plaque ce matin. Il y a 3 choses que vous devez faire pour prendre soin de vous, prendre soin des autres et recevoir la joie de Dieu. Mais regardez ça, verset 10. verset 10. Quand ils ont tout vu, quand Néhémie, Esdras ont vu tout ce peuple déprimé du dimanche matin, là, ou du samedi, je ne sais pas, ils ont ajouté « Allez manger un bon repas !» et boire des liqueurs douces. Dans la version Chouraki, c'est des douceurs. En envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur, ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Ouh ! Allez manger des bons trucs. Un petit verre si vous voulez. Un petit, des douceurs. Dans certaines églises, je ne sais pas si c'est autorisé, mais bon. Des douceurs. S'il y a des Américains parmi nous, je vous demande pardon, mais c'est quand même dans la Bible. Troisièmement, la joie de l'Éternel sera votre force. Alors regardez ça. Le problème, c'est que quand tu lis la loi, tu regardes à toi-même et tu vois ce qui va mal. Et du coup, regardez ce qu'il dit, c'est génial la Bible. Dieu dit, arrêtez de regarder ce qui ne va pas bien en disant, voilà, je ne suis pas à la hauteur dans ce domaine-là, j'ai menti à la personne à la CAF, donc je suis nul, j'ai perdu mon salut, etc. Non, arrête de penser pour ce que tu fais. Maintenant, regarde différemment. Au lieu de voir tout ce qui va mal en toi, c'est révolutionnaire, c'est la Bible. Et il dit, prends soin de toi. Fais des choses que tu aimes. Vous aimez le mot, j'ai mis le mot en hébreu, c'est le mot crème. Allez manger de la crème. Je suis désolé pour toutes les femmes qui ont tenté un régime depuis le 1er janvier. Je ne sais pas si je suis, mais je suis désespérément biblique ce matin quand même. La Bible dit, allez manger des choses qui vous font plaisir. Mais pasteur, on est en réunion, ça fait 4 heures qu'on est en train de prier et de méditer la parole. Arrêtez de méditer la parole et de déprimer là. Allez manger de la crème et allez boire un petit coup, mais avec modération. Juste des douceurs. Je suis sûr qu'il y a 2 ou 3 spirituels qui ont dit « Néhémie, perd la tête là. » Il aurait été viré des ADD. En envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Dieu dit « Je suis d'accord que tu te fasses du bien, mais je te demande une chose. Si on embarque quelqu'un qui n'a rien et fait du bien à quelqu'un d'autre en même temps, ne sois pas égoïste. Je suis d'accord que tu te fasses du bien, mais amène quelqu'un pour le bénir en même temps. » Là, c'est le deuxième secret de la joie. Le premier, c'est prends soin de toi. Le deuxième, c'est prends soin de quelqu'un. Alors, regardez ce que ça donne. Est-ce que c'est possible de mettre le PowerPoint? Juste l'image. Regardez le changement qui se passe. Tout à l'heure, on focalisait sur le soi qui va mal. Vous vous rappelez? On était en train de se dire, mais Seigneur, je suis pas à la hauteur. Ma vie, je regarde des trucs que je dois pas regarder. J'ai des comportements, des paroles. Je parle mal à mon mari. Je suis pas à la hauteur. Tu focalises sur toi qui va mal. Mais Néhémie leur dit, allez prendre de la crème, faites-vous un peu plaisir. Focalisez sur le soi qui va bien. Ça vous est déjà arrivé de déprimer, d'accord? Le matin, vous vous levez, il n'y a rien qui va. Le soir, c'est encore pire. Vous relevez le matin, la vie, vous la voyez tout en noir, tout est sombre. Vous pensez au suicide, vous êtes triste. Et tout d'un coup, vous passez devant une boulangerie. Et dans votre déprime intense, cette odeur de croissant chaud. Juste un instant, vous oubliez toutes les pensées noires et vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que Néhémie leur dit, « Oh, il y a quelque chose en vous qui a encore envie de vivre. Votre joie de vivre, il faut l'entretenir. Et Dieu est tout à fait d'accord que tu ailles prendre un peu de crème et que tu ailles boire quelque chose qui te fasse du bien. Mais voilà. Prends soin de toi, retrouve ton goût de vivre en prenant soin de toi. C'est tout à fait, il n'y a rien de spirituel à s'enfermer dans un monastère, même si ça peut paraître très bien aux yeux des hommes, et se priver de tout. Je suis désolé, Néhémie, il a dit, vivez. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas dit, allez dans les coins les plus reculés du monde, enfermez-vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne autour. Une fois que vous aurez parlé à personne, alors vous serez saints. Non, il a dit, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, c'est génial, c'est fun, c'est la mission. Et il dit, mais à condition, prenez soin des autres qui ne vont pas bien. Tout à l'heure, quand on était dans le régime de la loi, si tu es un légaliste, un chrétien légaliste, tu te compares aux autres et tu dis « Moi, je vais pas bien, les autres, ils vont bien. Le pasteur, lui, il est spirituel, moi, je suis nul. » Ça, tu es à côté de la plaque quand tu raisonnes comme ça. Dieu te dit, en fait, si tu voyais vraiment la vie des autres, tu verrais qu'ils ne vont pas bien. Tu verrais qu'il y a des personnes qui, alors que toi, tu as encore un peu à manger, il y en a qui n'ont rien préparé. Il y en a qui sont en train de mourir de faim. Je ne parle pas que de la faim physique. Hein. Tu crois que ta vie, elle va mal, et ben, tu n'as pas encore parlé à ta voisine. Parce que si tu parles à ta voisine, tu vas dire « Waouh, en fait, je suis vraiment béni d'être chrétienne. » Si tu es honnête et que tu vas vraiment parler à des personnes dans l'église, tu vas comparer ta vie et tu vas dire « Waouh, l'Éternel m'a béni. » Mais je sais que j'ai passé par des moments difficiles, mais je peux te dire une chose, l'Éternel m'a soutenu. Il est ma droite, il est à ma gauche, il me soutient, il me porte dans ses bras d'amour. Que mon pied heurte une pierre, hop, il me relève. Et là, vous commencez à dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai quelque chose à donner. Je suis désolé, quelqu'un qui pleure et qui pleure sur lui-même. Eh bien, tu ne vas rien avoir à donner, ma sœur. Tu vas te comparer à des personnes tellement parfaites, tu vas te sentir tellement nul que ça va te bloquer ta joie et ça te rendra inactive. Parce que le jour où tu veux te proposer dans un service dans l'église, tu vas dire « je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas ». Et Dieu te dit « mais arrête de voir ça. Regarde aux autres. » Je conclue ce matin. Le temps passe vite. Je conclue. C'est le meilleur. Là, il faut vraiment que vous soyez attentifs. C'est le meilleur. Regarde Dieu différemment. Regarde Dieu différemment. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a dit « Je cherche à trouver de la foi. » Il n'a pas dit « Je cherche à trouver des personnes qui appliquent la loi. » Jésus est un rabbi, il est un chef religieux, il était un adon. C'est-à-dire que normalement, quand il passait, on s'attendait à ce qu'il donne des commandements. Or Jésus, il est venu voir les prostituées. Et il a dit, je peux te dire une chose, c'est que tel que tu es, Dieu t'aime, tu peux changer de vie. Dieu a des meilleures choses pour toi. Il est allé voir des trafiquants, il est allé voir des personnes qui fraudaient, des inspecteurs des impôts qui s'en mettaient plein les poches. Et puis il leur a dit, Matthieu, viens, lève-toi de ton poste. Parce que Dieu a des projets pour toi. Il a vu quelqu'un qui faisait de la pêche, une entreprise de pêche, une SARL de pêche qui s'appelait Pierre et qui avait un sale caractère. Et Dieu lui a dit, de toi, je vais te faire de toi une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Des trucs incroyables. Il a pris une bande de fous aux yeux des hommes. Et il leur a dit, de vous, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors vous voyez, parce que il a dit, je vais vous préparer pour un autre royaume. Vous allez passer du royaume de la loi au royaume de la foi. Parce que Dieu n'est plus contre vous, Dieu est avec vous. La foi, ça veut dire le mot confiance. En latin, c'est le mot fides. C'est la fidélité. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage sur qui vous pouvez compter, d'accord ? Vous pensez à la meilleure personne, la personne qui ne vous abandonnera jamais, quelqu'un qui ne vous trahit pas, quelqu'un qui est derrière vous. Eh bien ça, vous avez une confiance, vous avez une foi en cette personne. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Néhémie leur dit, changez votre vision de Dieu. Dieu est votre ami. Aucun amen ce matin, je suis désespéré. Là, pour le coup, c'était le moment d'en donner, quoi. C'est pas quand je vous disais est-ce que vous êtes joyeux ou pas, c'est là maintenant. Est-ce que Dieu... Mais vous avez raison de ne pas le dire si vous ne le vivez pas. Parce que beaucoup de chrétiens, au bout des années de conversion, ne comprennent pas que Dieu est vraiment leur ami. Ils ont toujours peur de Dieu. Je lis le dernier verset. Il est dit, car la joie du Seigneur fait votre force. La joie de Dieu, de l'Éternel, fait votre force. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Si vous reste un petit peu de neurones encore, mais bien que le temps passe, mais Seigneur, ta joie fait ma force. Ben, pendant des années, je me suis dit, ben, ça veut dire que, en fait, il faut qu'on ait de la joie, que Dieu nous mette de la joie à l'intérieur, parce que sinon on est cuit. En gros, c'est la joie que Dieu me perfuse du ciel qui fait ma force. D'accord ? C'est ça qu'on l'interprétation facile. Mais je ne crois pas que ce soit ça qu'ils disent. Je pense que ce qu'il est en train de te dire, et là je l'ai lu dans la version Chouraki, si c'est du hébreu littéral, vous savez ce que ça donne en hébreu littéral ? Ça donne le ravissement de YHWH, de Yahvé, sera votre retranchement. comprends quelque chose. Ils sont là. Hommes, femmes, enfants. Ils sont venus dans le temple de Dieu ce jour-là. Ils se sont mis pour écouter la parole de Dieu. Ça fait 4 heures qu'ils entendent. Et ils sont en train de pleurer alors que Dieu est en train de faire la fête dans le ciel. Dieu fait la fête parce qu'il est super fier d'avoir un peuple qui a rebâti une muraille. Il est heureux parce que la ville est maintenant protégée, parce qu'il y a un retranchement autour, parce que c'est fini l'époque où les ennemis n'arrêtaient pas de les harceler. Et Dieu dans le ciel est en train de se dire « Waouh, j'ai un peuple qui est en train de louer à Créteil, ici à Jérusalem. J'ai un peuple qui loue et Dieu est ravi. » Moi, quand j'apprendrai à Ethan les mots de vocabulaire, je lui dirai « Voilà, dans le niveau du bonheur, tu vois, le niveau 1, ça va. » Après, tu dis « Je suis content, je suis heureux. » Mais le top, c'est quand tu es ravi. Et la Bible dit que ta force, c'est le fait de savoir que tu fais le ravissement de Dieu. C'est dur à avaler, ça. Mais nul comme je suis, complètement à côté de la cible. Oui, parce que j'ai la foi et j'ai pas la loi. Parce que j'ai compris que Jésus à la croix est mort pour moi alors que j'étais pécheur mauvais et qu'à la croix il a écrit par son sang combien il m'aimait indépendamment de ce que je fais. C'est pour ça qu'il ne me suffira pas d'être Mère Teresa pour être bien dans ma peau et être heureux, c'est pas vrai. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'ai entendu, et je l'ai entendu de mes oreilles, que c'est un pasteur qui faisait du suivi psychologique pour des personnes en grande difficulté. Il a rencontré une personne qui a été missionnaire en Asie pendant 40 ans. Une femme célibataire qui a tout sacrifié sa vie pour aller prendre soin des pauvres en Asie pendant 40 ans. Et alors qu'elle arrive à la soixantaine passée dans cette salle où il y a un conseiller chrétien qui est là, un thérapeute pour essayer de l'aider, elle dit « Je suis super malheureuse !» Il lui dit, mais pourquoi t'es malheureuse? Parce qu'il dit, elle dit comme ça, j'en fais pas assez pour Dieu. On hallucine ou quoi? On hallucine là. Vous savez le problème de cette femme? C'est qu'elle croit que Dieu l'aime en fonction de ce qu'elle fait. Alors du coup, elle n'en fera jamais assez. Jusqu'au jour où elle meurt, elle n'en fera pas assez. Et si tu crois qu'il faut que tu te détruises pour plaire à Dieu, t'as rien compris à la Bible. Parce que t'es encore sous la loi. Alors Jésus est venu pour rien, et tu fais ce que Paul dit aux Galates, mais c'est pas possible, vous suiviez bien, mais qui vous a détourné de l'évangile de la grâce? Il dit, mais vous êtes une créature merveilleuse, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pas tellement toi, oui, autant qu'à plein de défauts encore, hein, je ne vais pas dire, hein. Vu comment tu parles des fois des autres, oui, tu as encore plein de défauts, mais si j'écoute ce que le ciel dit de toi, il dit, tu as vu ma créature merveilleuse? T'as vu ce peuple-là? Oh, ils ont encore plein de péchés. Mais je les aime, c'est mes enfants. T'es une fille du roi et il aime qui tu es. Ah oui, mais ça veut dire que mais il regarde à ce que je fais. Non, il regarde plus à ce que tu es que ce que tu fais. Parce que ce qui intéresse Dieu quand il te voit, c'est qui tu es. Et tu as Christ à l'intérieur de toi, alors tu es chrétien. Alors tu es chrétienne. Et alors je vais te dire une chose, peu importe que tu donnes ta vie pour mourir au Darfour, pour sauver des enfants, ou bien tout simplement que tu prennes soin de la petite famille que Dieu t'a donnée, ou même que tu sois une femme seule et que tu fasses tout ce que tu peux pour la banque alimentaire, Dieu, il t'aime. Indépendamment, t'en fais plus, t'en fais moins, il t'aime. Alors, ce qui a volé ta joie, c'est ta fausse compréhension des commandements de Dieu. Néhémie leur dit, arrêtez là, on arrête la réunion, ça part mal, ça fait 4 heures qu'on lit la loi, vous êtes tous en train de pleurer. On arrête la réunion. Allez, c'est parti, pâtisserie pour tout le monde. On enchaîne avec, vous allez retrouver tous ceux qui n'ont rien et vous leur donnez un max. Vous allez trouver le plus beau gâteau, vous le partagez avec votre voisin parce que lui n'a rien préparé. Contrairement à ce que vous pensez, il va beaucoup plus mal que vous. Et puis comprenez que ce qui fait votre force, c'est que Dieu est de votre côté. La joie du Seigneur, c'est le fait que tu fasses plaisir au Seigneur qui fait ta force. Il y a des moments où j'ai failli tomber, mes amis, où j'étais mais presque désespéré. Parce que quand je regarde à moi-même, je dis, je ne suis pas encore assez bien. Vu l'Église, comment elle grandit, les responsabilités, waouh, ma vie de prière, elle ne sera jamais suffisante assez. Parce que si je devais passer ne serait-ce que 3 secondes pour chacun d'entre vous, en prière chaque jour, je vais mourir. Parce que là, vous êtes 6 ans, mais si Dieu en donne plus, comment je vais faire? Donc il y a un moment où je me dis, oh, Yvan, La joie du Seigneur fait ta force. Je fais ce que je peux pour faire plaisir à Dieu, mais je sais que de toute façon, ce qui lui fait le plus plaisir, c'est que je sois moi. C'est dur à comprendre, hein ? C'est une théologie nouvelle pour certains qui ont fait des années de légalisme, c'est une théologie nouvelle. Dieu vous aime, indépendamment de ce que vous faites, il vous aime. Mais pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux pas rajouter un gramme à l'amour de Dieu pour toi. Mais tu peux pas en retrancher non plus. Parce que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne peut se séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ ton Sauveur. Qu'est-ce que tu peux faire pour mériter ça ? Rien. Pourquoi Dieu t'aime ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi Dieu t'a choisi ? Il faut croire qu'il avait ses raisons. Pourquoi il t'a appelé que ce matin tu es venu dans l'église et que tu comprends qu'une partie du message et que tu es en train de dire waouh, mais Dieu, il m'aime de façon incroyable. Ben oui. Je suis désolé de t'annoncer une bonne nouvelle. Retrouve ta joie. Alors que je demande aux musiciens de venir sur le devant, je voudrais vous dire, vous savez ce que Jésus a dit juste avant de mourir sur la croix à ses disciples ? Il leur a dit, comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Est-ce que vous vous maintenez ? C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu toujours pour vous ? Après des années de conversion, allez, soyez vrais, tous ceux qui ont des années de conversion, ça fait longtemps que vous avez pris votre baptême. Est-ce que vous réalisez combien Dieu vous aime ? Même si tu as raté ton culte personnel ce matin. Même si tu as oublié de lire ta Bible hier. C'est sûr que c'est bien de le faire. Mais ça ne rajoutera rien à l'amour de Dieu pour toi. Si je le fais, c'est par amour, c'est pas par devoir. Jésus, il va plus loin. Alors là, ça casse tout ce que j'ai dit ce matin. Parce qu'il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Ah ben, pasteur, vous avez dit des mensonges alors. Vous voyez bien qu'il faut suivre les commandements. Ben, lisez la suite. Tout cela, je vous le dis, pour que votre joie, qui est la mienne, vous remplisse vous aussi. Ainsi, votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. C'est génial. C'est le plus facile des commandements. Aimer. C'est tellement simple qu'on le méprise. C'est tellement évident que ce n'est pas possible que ce soit si facile que ça. C'est pas possible que pour plaire à Dieu, il suffit de donner un verre d'eau quand même, c'est n'importe quoi. Mais si tu donnes un verre d'eau au moindre de mes disciples, parce que c'est mon disciple, tu auras ta récompense au ciel. Un verre d'eau, sérieux, un verre d'eau. Rien qu'un verre d'eau. Si tu donnes un sourire, rien que le fait que tu sois là présent le dimanche, Dieu, il fait la fête au ciel. Rien que le fait que tu aies pris quelqu'un, si tu veux vraiment plaire à Dieu, fais des bisous à la sortie de l'église. Fais des bisous. Vraiment. Mais pour ça, faut que tu arrêtes de pleurer déjà, parce que sinon, faut que tu comprennes que Dieu, il t'aime et ça te donnera de l'amour à donner. Un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Vous qui êtes mes amis, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître, je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné comme mission d'aller, de porter du fruit, que votre fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Oh là là, c'est tellement fort et tellement simple qu'on a du mal à l'avaler. On va fermer les yeux ensemble ce matin. Comment être purifié ? Comment être pardonné ? Comment recevoir la joie ? T'as rien à faire pour cela. T'as simplement accepté que Dieu t'aime de façon inconditionnelle. Fermez les yeux un instant et regardez Dieu. Comment vous considérez Dieu ? Comme un père ou comme un juge ? La joie du Seigneur fait ma force. Je sais que qui je suis ravit le cœur de Dieu. Et de toutes les protections de ma vie, la plus importante, c'est de comprendre que Dieu est de mon côté. Parce que si je commence à me culpabiliser et à refuser la grâce de Dieu, je suis déstabilisé. On peut se lever ensemble ? Seigneur. On peut prendre ce cœur qui dit comment être pardonné, comment recevoir la vie. Alléluia. Seulement par le sang de Jésus, seulement par l'amour de Jésus. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendu sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense.
C'est merveilleux. C'est merveilleux l'amour de Dieu.
Jésus, c'est ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie?
Accepte l'amour de Dieu.
Seulement par le sang. Seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
La croix.
La croix, témoin de ta grâce, montre le cœur du Père et nous ouvre la voie. Confiant, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang.
Dernière fois, comment être?
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang.
Est-ce que je peux entendre vos voix?
Jésus.
Comment? Juste vos voix.
Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu. Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
C'est tellement beau, Seigneur. C'est tellement beau, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Je te prie pour que tu nous donnes de comprendre dans notre tête et que ça descende jusque dans nos âmes. Que ton amour, il est immense et il est inconditionnel. Seigneur, que tu puisses, alors que ce culte s'achève, passer dans les rangs et chaque personne qui n'a pas une pleine révélation de ton amour inconditionnel, Seigneur, redonne la foi, redonne la confiance en toi dans ce lieu. Seigneur, que nos mentalités de légalistes qui veulent toujours essayer de faire pour te plaire puissent diminuer maintenant.
Alléluia.
Et Seigneur, s'il est des pleurs, que ce soit des pleurs de joie qui viennent dans ce lieu. Des pleurs parce qu'on prend soin de nous, on prend soin des autres, et puis on sait que la joie de l'Éternel est notre force. Le ravissement de Yahvé est de notre côté. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tant que vous êtes debout, vous acceptez qu'on reste un petit peu? Alors que les frères viennent pour les offrandes, je voudrais qu'on fasse ce chant qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Mais est-ce que c'est possible d'y mettre un air, je ne sais pas s'ils faisaient le jazz à l'époque, mais quelque chose qui me dit que c'était fun, quoi. Il n'y a que le premier rang qui est dedans, là. Au fond, vous êtes là. Est-ce que la joie du Seigneur est votre force? Là, c'est le moment où il faut dire « Amen ». C'est-à-dire « Ouais, qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est tu es de mon côté, Seigneur. »
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur.
Eh ben, vous n'êtes pas prêts d'être forts, hein, parce que je suis plus africain que vous et je comprends pas pourquoi. Ça bouge plus ici que là-bas et c'est pas normal. Attendez, c'est vous qui êtes du soleil, non? Moi, je viens de Bretagne, les amis. Et je bouge plus que vous. Vous n'êtes pas prêts d'être heureux. Si vous n'êtes pas heureux là, c'est foutu, hein. Alors, on va reprendre, c'est parti, les musiciens. Vous mettez le... Et si votre voisin danse pas, il dit « Oh, t'es pas prêt d'être heureux, toi, oh !»
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur.
Toutes les femmes dans la salle, les femmes.
Si tu veux cette voix, il faut chanter. Si tu veux cette joie, faut chanter, ma force est dans la joie du Seigneur.
Tous les hommes dans la salle,
si la joie du Seigneur est ma force.
Bon, les frères, là, la voix.
La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie.
Allez, tous ensemble.
La joie du Seigneur est ma force.
Est ma force.
La joie du Seigneur.
La joie du Seigneur,
elle est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur.
Ouh. La joie du Seigneur bon, est ma force.
Oh, c'est une dernière fois, allez. La joie du Seigneur
est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur.
Hey. J'ai un truc à vous dire. C'est pas une blague. Je viens de la prendre en direct. On doit présenter un bébé au Seigneur. Vous savez comment ils l'ont appelé? Joyce. Est-ce que Joyce, tu peux venir? Vous pouvez vous installer. Vous pouvez vous reprendre place. Je vais demander aux parents de venir. Avec Marc, Victor, venez. On va présenter Joyce au Seigneur. Ça, c'est drôle, les plans de Dieu, des fois. En plus, elle pleure pas. Hein. Elle a pas compris. C'est bon, elle est pas dans la loi encore. On va prier pour vous.